La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, lors de dernières émissions sur les créatrices au cinéma, nous étions en Italie et avons abordé le cinéma au travers des réalisatrices de documentaires qui ont surtout filmé le quotidien des Italiens, comme Cecilia Mangini, et en plus en lien avec les traditions populaires avec Annabella Rossi. Et même, nous avons fait connaissance d'une compositrice investie, une militante en faveur de causes sociales au nom de Giovanna Marini. Car la plupart de ces femmes, italiennes de surcroît, s'engageaient en n'hésitant pas à affirmer leurs opinions, notamment politiques. Alors nous allons continuer avec les réalisatrices de documentaires, témoins de leur temps, et revenir pour cela aux États-Unis. Avec tout d'abord Mary Marvin Breckinridge, née en 1905, et qui était de surcroît photographe, journaliste et bien entendu cinéaste, en réalisant des documentaires qui mettaient en scène des femmes dans des situations variées. Alors elle a surtout réalisé des photos, mais quand même des films, dont un dont nous parlerons plus loin. Et elle a utilisé son prénom, Marvin, ambigu quant au sexe, à la fois pour se prémunir contre d'éventuelles discriminations faites aux femmes, c'était courant à l'époque, mais aussi pour se distinguer d'une cousine qui portait le même prénom et nom qu'elle, Mary Breckinridge, et dont le rôle fut prépondérant dans la création d'un service de santé et de sage-femme. Alors Marvin Breckinridge est issu d'une famille de politiques, car en effet son grand-père, John Cabell Breckinridge, fut vice-président des États-Unis et sa cousine, Isabel Selmes Greenway, la première femme membre du Congrès de l'Arizona. De plus, son oncle, le père de Marie, l'infirmière, était ambassadeur des États-Unis auprès du tsar de Russie, Nicolas II. Bon, pour dire que le politique fait partie aussi de la vie de Mary Breckinridge et qu'elle agira dans ce sens, surtout au niveau social. Et quant à son goût de la photographie, il lui est venu toute jeune, dans l'enfance, où elle reçut en 1926, à l'âge de 11 ans, son premier appareil photo. Et pour ses études, qui seront assez complètes, j'ai noté qu'elle a étudié à la Clarence White School of photographie fondée à New York. Bon, une école de photographie, vous l'avez compris. Alors, elle poursuivra aussi des études au Vassar College, à une centaine de kilomètres de New York, qui fut un collège pour jeunes filles de la bonne société, fondé en 1861 et qui deviendra mixte en 1969. Et d'ailleurs, elle tournera un film muet en noir et blanc en 1931, intitulée « She goes to Vassar »,« Elle va à Vassar », d'une durée de 14 minutes à peu près, qui est, si vous le voulez le voir, diffusée également sur YouTube. Et elle se fait le témoin de ce qui se passe dans cette école à son époque. Alors on y voit de jeunes personnes, bien comme il faut, évoluer dans le cadre de leurs études, et présenter également le personnel administratif et le corps enseignant, les matières enseignées, l'anglais, le français, l'histoire, la philosophie, les sciences et la physique, la musique. Ces jeunes personnes font de la danse, de la gymnastique, de la natation, de l'escrime, bénéficient d'une bibliothèque pour ouvrir davantage leur esprit. Bref, elles ont de quoi profiter de tout un enseignement jugé nécessaire pour en faire des jeunes personnes accomplies selon les critères en cours dans la bonne société américaine de l'époque. Alors, en sortant de ses études, elle travaillera d'abord dans le contexte médico-social auprès de sa cousine infirmière, Mary Carson Breckinridge, et tournera, pour la circonstance, un film muet, noir et blanc, en 1930, intitulé « La frontière oubliée », qui raconte l'histoire d'un service de santé d'infirmières et de sages-femmes créé par cette cousine, Mary Carson Breckinridge. Et le film a été nominé au National Film Registry en 1996, ce qui veut dire aussi que ce film est conservé à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis, qui est la grande bibliothèque nationale des États-Unis. Alors, c'est un film qui fait 45 minutes et que vous pouvez voir sur YouTube, titré en anglais « The Forgotten Frontier ». Et ce film présente des images cinématographiques entrecoupées de textes explicatifs en anglais. Si vous connaissez cette langue, vous pouvez mieux l'apprécier, bien évidemment. Alors, elle deviendra par la suite et en quelque sorte correspondante de guerre en témoignant à la radio pour le CBS Radio Network, en se déplaçant sur les lieux de conflit pour faire le constat de la réalité en temps de guerre, où elle photographiera aussi, et je donne un exemple, l'évacuation des enfants anglais à Londres. Alors, elle cessera sa carrière de photographe, journaliste, réalisatrice avec son mariage en 1940, elle a 25 ans, en épousant un diplomate américain du nom de Jefferson Patterson. Alors, elle arrêtera d'abord la radio. Quant au photojournalisme qu'elle désirait poursuivre ou reprendre, elle fut interdite de publication par le département d'État des États-Unis, qui estimait que ce type d'activité compromettrait le travail du mari. Si bien que son temps, elle le passera ensuite à suivre son mari dans divers pays. Et elle recommencera à s'impliquer pour des causes sociales et éducatives au décès de celui-ci en 1977, en créant également une fondation, la Marpat, en 1985, laquelle accordera des subventions aux musées et galeries d'art, à des organisations diverses s'occupant d'environnement ou d'histoire, et également au profit de services sociaux et culturels. Et elle a également fait don d'œuvres d'art et de ses photos dans des organismes spécialisés, et elle a donné son domaine familial de York dans le Maine en faveur de la création d'un centre archéologique, le district archéologique de Patterson. Il est donc évident que c'est une femme qui disposait de moyens financiers importants pour soutenir des projets et agir dans de multiples secteurs éducatifs et utiles à la communauté. Et d'après ce que j'ai lu, elle est même reconnue comme une philanthrope, elle a donné aux autres ce qu'elle-même a reçu au long de son existence, c'est-à-dire un tremplin matériel pour se développer. Elle a d'ailleurs été appréciée et honorée de son vivant, à la fois pour son travail personnel et aussi certainement en raison de ses implications, car elle reçut titre honorifique et prix plutôt prestigieux. Elle a même été diplômée en tant que femme pilote, la première dans le Maine. Et en outre, ceci dit, elle est décédée à 97 ans en décembre 2002. Et 8 ans après son décès, elle recevra, avec cette autre femme journaliste et photographe, un hommage de la Bibliothèque du Congrès pour leur action et travail pendant la guerre. Et ces photos sont exposées maintenant un peu partout, comme des références de classiques du genre. Alors, faisons maintenant une petite pause musicale. J'ai pensé vous faire écouter une musique de cette période 45-46, une musique rétro chantée par Ella Fitzgerald et intitulée « It's only a paper moon ».
Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be made believe if you believe in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky, hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love,
it's a honky-tonk parade. Without your love,
it's a melody played in a penny arcade.
It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. It's phony, it's plain to see how happy I would be if you
Nous allons faire la connaissance d'une exploratrice internationale car elle a parcouru 80 pays environ, 6 continents. Elle a commencé à 16 ans, ce qui est très, très jeune. Tout d'abord en réalisant des documentaires avec celui qui est devenu son premier mari, Walter van der Velde. Mariage qui a été propice à ce que Walter ne soit pas arrêté pour immoralité de par le fait d'emmener une jeune femme au-delà des frontières, ce qui était interdit à l'époque. Et elle est en tout cas, cette jeune femme, considérée comme la première femme à avoir fait le tour du monde en voiture, dans un modèle Ford de 1918, très exactement, pour un voyage qui durera 5 ans, de 1922 à 1927. Et elle apparaît même dans le Guinness des records. Il s'agit de Aloha van der Velde Becker, née Idris Galcia Welch. Alors c'est une canado-américaine née en 1906. Il faut dire que son beau-père Herbert Hall, dans le cadre de ses activités, a déjà fait voyager la famille en Angleterre, en France, en Belgique, ce qui peut-être, on peut supposer, lui a donné le goût du voyage. En tout cas, Idris Welch, devenu Aloha van der Velde, partira sur les routes à 16 ans avec celui qui deviendra son mari en 1925, Walter van der Velde, dont elle aura deux enfants. Et elle aurait, paraît-il, eu cette opportunité de voyage dès 16 ans en postulant pour un emploi au sein d'une équipe qui projetait de faire une expédition en Asie, en Afrique, ce qui a fonctionné pour elle puisqu'elle est devenue au sein de cette équipe traductrice, réalisatrice et chauffeur, si bien qu'elle fut considérée comme la première femme à conduire une voiture autour du monde. Alors elle ne s'arrêtera pas là puisqu'elle apprendra à piloter des avions et notamment un hydravion allemand, le Junker, qui l'emmènera au Brésil dans le Mato Grosso à la recherche d'une cité perdue. Donc elle se présente véritablement, de par son parcours et en général, comme une aventurière. Enfin, quoi qu'il en soit, avec son premier mari, elle ramènera de ses voyages des témoignages cinématographiques. Alors, il s'agit évidemment de films muets à cette époque, dans les années 20, films auxquels Aloha apportera des explications lors de conférences. Quant aux films noirs et blancs, ils sont d'une durée de 16 minutes et conservés actuellement à la Bibliothèque du Congrès et de l'Académie des Arts et des Sciences du cinéma aux États-Unis. Alors le mari sera malencontreusement tué par balle, mais Aloha continuera ses voyages et épousera en seconde noce un monsieur nommé Walter Baker, avec qui elle parcourra différents pays, l'Asie, l'Orient, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et d'autres encore. Elle réalisera encore et toujours des documentaires parlant, cette fois, à partir des années 30, que vous pouvez trouver sur YouTube, en anglais, du moins un qui dure une quarantaine de minutes. Vous trouverez également une biographie, le tout est en anglais. Et en dehors des témoignages, de conférences, elle écrira également un récit autobiographique de ses voyages intitulé « L'appel de l'aventure » qui paraîtra en 1939 et sera publié de nouveau en 2012. Alors, ces récits de voyage porteraient sur plus d'une cinquantaine de pays entre 1921 et 1952. Alors, il est dit aussi qu'elle parlait 11 langues, ce qui n'est pas rien, 11 langues. Par la suite, elle témoignera aussi à la radio et pour décéder en 1996 à l'âge de 89 ans. Et ces films seraient conservés à la Cinémathèque de l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma, une organisation basée en Californie dans la collection de films dédiée à Aloha Vanderveld Baker. Alors, quoi de mieux pour une aventurière qu'une musique de film d'aventure ? Je vous propose celle du film intitulé Blue Diamond, Diamant de sang, réalisé par Edward Zwick en 2006, tourné avec Leonardo DiCaprio et qui va nous emmener sous le brûlant soleil d'Afrique, musique composée par James Newton Howard. Après cette belle musique qui nous a fait voyager en terre inconnue, je vais maintenant terminer en vous présentant une autre cinéaste américaine d'origine ukrainienne, devenue américaine en 1928 en fuyant les pogroms antisémites. C'est une personnalité éclectique qui s'intéressait à toute forme d'art, comme à la danse, à la littérature ou la poésie. Elle était d'ailleurs licenciée en art, avait fait ses études en Suisse et à New York, et est devenue cinéaste avec ses films d'inspiration surréaliste, des films dits expérimentaux, dont elle est une personnalité notable. Alors les films expérimentaux, comme vous le savez, sont des productions en marge des industries cinématographiques traditionnelles, classiques de l'époque. Et à cette époque, mi-20e siècle, ce sont surtout des films hollywoodiens qui rentrent dans la catégorie de l'industrie cinématographique classique. Et de plus, les films expérimentaux sortent également des circuits commerciaux habituels et ils sont souvent réalisés avec peu de moyens. Alors nous dirons que c'est une forme de cinéma qui apparaît plus insolite, anticonformiste dans ses modes d'expression et qui se veut plus créatif. Et c'est bien le cas de Maya Deren, née Eleanora Derenkovskaya en 1917, qui décrit elle-même ses films comme expérimentaux, chorégraphiques, poétiques et métaphysiques, et qui s'opposait avec pas mal de virulence, paraît-il, à l'industrie cinématographique, ou du moins à la domination du cinéma lorsque celui-ci reposait avec trop d'insistance sur l'argent ou le profit. Alors en 1943, elle a 26 ans, et avec son mari photographe, Alexander Hamid, qui la soutient dans sa création, elle tourne un essai poétique intitulé « Meshes of the Afternoon », que l'on peut traduire comme « Maille ou maillage de l'après-midi ». Bon, film que vous pouvez visionner sur YouTube, si le cœur vous en dit, comme je l'ai fait moi-même. Un film qui plonge dans un climat étrange, avec ses images en effet plutôt poétiques, l'apparition d'objets symboliques, bon, peut-être assez glauque quand même, mais vous évaluerez vous-même. Elle en recevra en tout cas une récompense par l'intermédiaire du Grand Prix international de cinéma d'avant-garde au premier Festival de Cannes de 1947. Alors elle travaillera aussi en tant qu'assistante d'une chorégraphe anthropologue afro-américaine nommée Catherine Dunham, ce qui lui donnera le goût de la danse et sans doute influencera son travail de cinéaste puisqu'elle intégrera la danse et l'expression corporelle dans ses films et notamment lorsqu'elle fera des documentaires. Et elle obtiendra d'ailleurs une bourse de la Fondation Guggenheim dans les années 50 pour partir en Haïti étudier les danses rituelles locales et donc le vaudou. Marque de son intérêt également pour l'anthropologie. Alors elle publiera d'ailleurs un écrit en 1942 intitulé « Religious Possession Dancing », hein, « Danse de possession religieuse ». Bon, donc elle part, mais malheureusement à son retour, elle décède, bien jeune, puisqu'elle n'a que 44 ans, sans avoir pu exploiter son travail, qui sera repris par son second mari, un compositeur japonais du nom de Teiji Ito, excusez la prononciation, qui montra quelques années après, à sa manière et non à celle de Maya Deren, ce film intitulé Divine Horsemen, The Living Gods of Haiti, traduit par Cavalier divin, les dieux vivants de Haïti. Alors elle participera aussi à la création d'une association dans le but de regrouper les cinéastes expérimentaux américains, la Independent Filmmakers. Et c'est dans les années 70 que les cinéastes s'intéresseront vraiment à elle. Et à cette occasion, ils feront ressortir ses idées féministes, ce qu'ils ont pu percevoir au travers de ses films. Et les féministes elles-mêmes citeront Maya Deren, surtout parce qu'elle s'était tournée au cinéma vers la figure de la sorcière, la femme qui utilise ses pouvoirs occultes sur les hommes et qui décide librement de sa vie. Alors, en dehors du cinéma, elle aura également produit un ouvrage, hein, des textes qui seront édités en français en 2004 par les éditions Paris Expérimental sur l'art et le cinéma. Alors, j'ai lu quelques passages où elle décortique sa façon de travailler, ses motivations, sa vision de l'art, du cinéma en particulier. On y repère l'influence des sciences humaines avec la psychologie, ce qui a trait à la profondeur de l'âme et de ses mystères. Son approche, évidemment, est personnelle. Hein. Mais vous avez à disposition les références livresques et cinématographiques sur Internet pour creuser le sujet, si vous voulez. Quant à moi, j'ai dénombré une dizaine de films de Maya Deren entre 1943 et 1960, dont certains sont diffusés sur YouTube. Et c'est en 1986 que le prix Maya Deren sera créé en son honneur par l'American Film Institute, prix qui récompense les artistes du cinéma vidéo indépendant. Et c'est sur Maya Deren que nous allons terminer notre émission dédiée aux créatrices, artistes cinéma. J'espère que cette émission aura attisé votre curiosité. En tout cas, je vous remercie de votre écoute de La Voix des Arts et vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur le sujet. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.